Le carrefour de l'info sur Arabelle.
Bonjour, bonjour à tous et on démarre tout de suite ce carrefour de l'information.
Le carrefour de l'info sur Arabelle.
Voilà, cette fois c'est la bonne. On démarre votre carrefour de l'information aujourd'hui avec les enjeux actuels de la migration et des politiques d'accueil chez nous, dans un contexte de la Journée mondiale de la diversité culturelle célébrée récemment. Et pour nous en parler, nous recevons François Roland, qui est conseiller en droits fondamentaux au Centre fédéral migration. Myriam, bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Avec plaisir, merci d'être avec nous sur Arabelle. Peut-être avant d'aller plus loin, disons une petite carte de visite de votre organisation et un petit peu votre rôle au quotidien.
Bien sûr, avec plaisir. Donc moi je travaille pour Myria. Myria, c'est le Centre fédéral migration. C'est donc une institution publique indépendante qui a trois missions en matière de migration. Donc la première mission, c'est de veiller au respect des droits fondamentaux des étrangers en Belgique. La deuxième mission, c'est d'informer sur la nature et l'ampleur des flux migratoires, donc plutôt chiffres et data.
Oui.
Et la troisième mission, c'est de stimuler la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains. Et donc, Myria, le Centre fédéral de migration, fait ça dans un cadre et selon une approche fondée sur le respect des droits humains et sur la connaissance des faits, c'est important. Et toujours dans un esprit de dialogue, de collaboration et de respect avec toutes les institutions, tous les acteurs liés aux enjeux migratoires.
Alors, pour revenir à l'actualité immédiate, en ce début d'année 2026, quel profil ont les personnes qui arrivent chez nous et d'où viennent-elles et pourquoi finalement fuit-elles leur pays d'origine ?
Alors, c'est important peut-être de préciser avant de répondre à votre question que on parle évidemment de choses différentes. En matière migratoire, ici, quand on parle de la fuite de personnes de leur pays d'origine, on parle essentiellement des demandeurs de protection internationale. Mais c'est important de le rappeler, la migration est beaucoup plus large que l'asile et que la protection internationale. Ça correspond environ à 15 à 20% des arrivées en Belgique, les demandes de protection internationale. Et donc, ça dépend vraiment de quoi on parle. Et donc, de manière générale, la migration en Belgique est majoritairement le fait de personnes de l'Union européenne qui viennent donc essentiellement pour des motifs économiques ou pour des motifs familiaux. Et si on parle alors des personnes hors de l'Union européenne, et bien là, on retrouve également le motif familial comme premier motif de migration, et ensuite seulement alors des motifs d'études, de protection internationale, etc. Et donc, si on en vient aux nationalités principales qui viennent en Belgique, et bien au niveau global, on va plutôt retrouver des nationalités européennes. Donc, la Roumanie est le premier pays pour les personnes qui migrent en Belgique. Et ensuite, on a la France, l'Ukraine, encore suite à la crise ukrainienne depuis 2022, les Pays-Bas et l'Espagne. Si maintenant j'en viens au niveau des chiffres de la protection internationale, qui est donc une petite partie de la migration, ce sont plutôt les personnes d'origine afghane, palestinienne, érythréenne, et ensuite le Congo et la Turquie qui se retrouvent dans les chiffres. Ce sont des chiffres de 2024 ou de 2025, car on traite seulement les chiffres consolidés.
Absolument. Est-ce qu'il y a des nouvelles tendances par rapport aux années précédentes, si on regarde un peu plus loin dans le rétroviseur ?
Alors, ça dépend jusqu'où on remonte, mais disons que une grosse tendance, un gros marqueur de ces dernières années, c'est évidemment été la crise ukrainienne qui a provoqué un afflux important de personnes originaires d'Ukraine depuis 2022. Alors les chiffres aujourd'hui baissent légèrement et une grosse question se pose sur qu'est-ce qui va se passer pour toutes ces personnes d'origine ukrainienne qui aujourd'hui bénéficient d'une protection spécifique, la protection temporaire. Et si on regarde un peu moins loin, cette année et les dernières années, il y a eu une baisse importante du nombre de demandeurs de protection internationale qui venaient de Syrie. Et cette année particulièrement, on voit que le nombre de demandeurs de protection internationale baisse partout en Europe et notamment donc en Belgique.
Alors, bon nombre d'observateurs se posent la question suivante. La politique d'accueil chez nous, est-ce qu'elle est à l'auteur des engagements internationaux du pays finalement ?
Alors, j'imagine que vous parlez d'accueil des demandeurs d'asile, des demandeurs de protection internationale. Et là, je pense que la réponse est non. C'est une réponse tout à fait franche, dans la mesure où ce n'est pas le Centre fédéral migration Myria qui le dit, ce sont les juridictions nationales et internationales qui, pour rappel, depuis 2021, les juridictions nationales ont condamné plus de 16 000 fois, dont 11 000 condamnations ont été signifiées à l'Agence pour l'accueil des demandeurs d'asile, faits d'asile. Donc c'est des chiffres évidemment tout à fait hallucinants au niveau du respect de droit de l'accueil des demandeurs d'asile. Et donc là, effectivement, on peut affirmer que la politique d'accueil n'est pas à la hauteur. Et j'anticipe peut-être vos prochaines questions, mais on a parlé de crise d'accueil depuis 2021. Aujourd'hui, et depuis quelques années maintenant, on est clairement plus dans une crise, on est dans dans une attitude de la part des autorités belges de ne pas accorder ce droit à l'accueil, qui est pourtant garanti par la loi belge et par les réglementations européennes et internationales.
Alors, est-ce qu'il y a tout de même des bonnes pratiques à saluer, à relever, malgré tout ?
Il y a eu des bonnes pratiques. Je pense que je parlais de l'accueil des personnes ukrainiennes en 2022. Ça a été clairement une bonne pratique qui a été relevée par une série d'acteurs. Donc, il y a eu un vrai engagement, des vrais efforts qui ont été faits pour qu'on soit capable d'accueillir. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour l'ensemble des demandeurs de protection internationale, et on a vu effectivement un double standard. On a parlé de double standard par rapport à l'accueil des demandeurs de protection internationale d'un côté, les Ukrainiens de l'autre, mais effectivement, il y a des bonnes pratiques qui ont été appliquées à ce moment-là. Il y a eu une augmentation au début de ce qu'ils ont appelé la crise de l'accueil, début 2021-2022, une augmentation forte du nombre de places en centre d'accueil. Malheureusement, une série de solutions qui étaient disponibles et qui auraient pu être utilisées pour résoudre cette crise de l'accueil, qui peuvent d'ailleurs toujours être utilisées aujourd'hui pour résoudre cette crise de l'accueil, n'ont pas été mises en œuvre, ce qui fait que cette crise de l'accueil se prolonge, contrairement à ce qui est dit à l'heure actuelle par la ministre de l'Asile et de la Migration. Cette crise de l'accueil est toujours actuellement elle existe toujours actuellement, dans la mesure où il y a encore plus de 1000 personnes qui se retrouvent sur une liste d'attente pour avoir droit à une place dans un centre d'accueil, alors qu'ils y ont droit depuis l'introduction de leur demande d'asile. Pour un chiffre, en 2025, ce sont plus de 75% des demandeurs de protection internationale qui sont considérés comme des hommes isolés, qui n'ont pas eu droit à un accueil le jour de leur demande. Ils doivent attendre alors 3 mois, s'inscrire sur une liste d'attente qui par ailleurs a été considérée comme illégale par les juridictions, mais ils s'inscrivent sur ces listes d'attente et ils doivent ensuite attendre 3 à 4 mois en vivant souvent sans aucune aide avant d'avoir une place d'accueil dans un centre.
Oui, alors sans logement, sans travail, tout ça, ça provoque des dégâts humains et aussi des incidences sur la santé mentale des personnes concernées.
Oui, très clairement. Alors, le Centre fédéral migration n'est pas sur le terrain. Oui. Donc là, c'est plutôt les rapports des associations et des ONG qui sont sur le terrain auxquels je me réfère. Mais il est évident, et d'ailleurs, dans un récent arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, il a été constaté une violation de l'article 3, qui est un article qui interdit la torture et les traitements inhumains et dégradants. En fait, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que l'attitude de la Belgique de laisser des demandeurs de protection internationale plusieurs mois sans hébergement, sans accueil alors qu'ils y avaient droit, et de ne pas respecter les juridictions et les jugements qui avaient été rendus pour ordonner un accueil, eh bien, était constitutif d'un traitement inhumain et dégradant, dans la mesure où ces personnes avaient dû vivre sans aide des autorités publiques, ou en tout cas sans un accueil suffisant pour vivre une vie conforme à la dignité humaine. Et donc, il est clair que ça a des dégâts. Les ONG et les associations de terrain le constatent tous les jours, notamment au hub humanitaire, qui est un hub qui fournit une assistance matérielle, une assistance juridique et d'autres types d'aide aux personnes qui ne sont pas dans les centres d'accueil, pas seulement, mais en grande partie, leur public aujourd'hui est constitué de ces personnes-là. Eh bien, ces associations ont documenté largement les impacts sur la santé mentale et la santé de manière générale des personnes qui ne bénéficient pas de cet accueil.
On l'a vu, donc la Belgique durcit sa politique migratoire. D'ailleurs, ça dure depuis pas mal d'années. Sur quoi précisément, Myria, tire la sonnette d'alarme ? Quelles mesures vous préoccupent le plus finalement ?
Il est difficile d'épingler une mesure, en fait. On a beaucoup parlé ces dernières semaines des visites domiciliaires.
Ce sera le sujet dans quelques instants.
Voilà, on vient d'évoquer sur votre antenne la décision européenne sur le règlement retour. Ce qui inquiète surtout chez Myria, et c'est ce qui ressort de nos avis qu'on publie régulièrement sur notre site, c'est l'accumulation, en fait, des mesures qui sont prises en particulier depuis l'instauration de ce nouveau gouvernement, l'accumulation des mesures qui portent atteinte aux droits fondamentaux des étrangers. Je vais vous citer quelques exemples, si vous me le permettez, oui. Parce que c'est important. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour montrer à quel point c'est une accumulation de mesures qui portent atteinte à tous les niveaux aux droits fondamentaux des étrangers. Il y a eu des lois qui ont été votées sur la restriction du regroupement familial, le droit de vivre en famille, des droits fondamentaux des étrangers. Une partie de ces dispositions ont été suspendues d'ailleurs par la Cour constitutionnelle. Une nouvelle loi qui restreint le droit à l'accueil de certaines catégories de demandeurs de protection internationale, également suspendue ou annulée en partie par la Cour constitutionnelle. Il y a la loi sur les visites domiciliaires, on en parlera plus tard, mais c'est évidemment une loi extrêmement importante qui a fait beaucoup parler d'elle ces dernières semaines. Il y a également le droit à l'aide sociale pour les personnes étrangères qui sont installées. Donc on restreint la possibilité de demander une aide sociale pour certaines catégories d'étrangers qui touchent évidemment directement à la dignité humaine et au fait de pouvoir vivre une vie conforme à la dignité humaine. Et là, je regarde qu'en Belgique, je ne cite que quelques exemples, mais il y a évidemment au niveau européen, on vient de voter le règlement retour qui va permettre des hubs de retour. Alors, il n'est pas encore voté officiellement, mais a priori, ça devrait être le cas dans quelques semaines, qui va permettre l'établissement de hubs de retour hors de l'Union européenne pour les personnes qui se verraient déboutées de la protection internationale. On augmente les durées de détention, on augmente les motifs de détention, on prévoit des sanctions supplémentaires pour les personnes qui ne respecteraient pas un ordre de quitter le territoire. Je ne parle pas de l'immigration étudiante ou l'immigration économique qui a également été durcie, alors en grande partie en tout cas par des réformes récentes. Et par ailleurs, et je finirai avec ça, il y a également tout le discours ambiant, tout le discours autour de la migration, en particulier, et c'était un dossier sur lequel Myria s'est exprimé récemment, des attaques contre la Cour européenne des droits de l'homme, qui ont été initiées en partie par les responsables politiques belges, depuis un an et qui ont donné lieu à une déclaration politique qui remet en cause, si l'on peut exprimer cela comme ça, je pourrais rentrer dans les détails, mais je ne pense pas que c'est le sujet ici, qui remet en cause le rôle de la Cour européenne des droits de l'homme et la manière dont la Cour européenne des droits de l'homme juge les affaires, en particulier en matière de migration. Donc tout cela, toutes ces mesures, toute cette accumulation, effectivement, porte atteinte aux droits fondamentaux des étrangers. C'est là-dessus que Myria tire la sonnette d'alarme.
Alors, on va justement parler de Myria. Le temps passe très, très vite. Encore deux petites questions. Si une auditrice ou un auditeur souhaite s'engager, par où peut-il commencer? Est-ce qu'il existe des structures locales accessibles, par exemple?
Oui, bien sûr. Alors, dans tous les quartiers, dans toutes les villes, il y a des structures locales. Alors, j'imagine que vous me parlez de s'engager pour les droits fondamentaux des étrangers ou pour l'aide à des personnes migrantes. Donc, moi, j'inviterais les auditeurs qui nous écoutent, d'abord peut-être, parce que c'est notre rôle chez Myria, de s'informer auprès de sources fiables. Ça, c'est la première chose. Il faut s'informer auprès de sources fiables et ne pas parler de migration sans avoir des données objectives. Par ailleurs, il y a plein d'associations, en particulier, pour ce que je connais moi le mieux, les centres d'accueil de demandeurs de protection internationale. Il y en a partout en Belgique, il y en a certainement dans votre commune ou dans votre ville, et ils recherchent toujours des bénévoles pour venir donner un coup de main en termes d'animation, en termes d'aide. Et puis, il y a des petites associations. Moi, j'habite Skarbek il y a une association, par exemple, qui s'appelle l'association SBAR, et qui offre notamment une aide aux plus démunis, ce qui inclut évidemment les personnes migrantes, mais pas seulement. Tout le monde qui a des besoins peut être aidé. Voilà, il y en a énormément. Je peux citer la plateforme citoyenne d'accueil réfugié, Belle Refugees, Fed Asile, la Croix-Rouge, qui opère les centres d'accueil. Donc voilà, toutes ces structures-là peuvent être contactés et ils sont souvent demandeurs.
Enfin, dans l'esprit de la Journée mondiale de la diversité culturelle que l'on a célébrée récemment, quel message fort Myria souhaite finalement faire passer à tout le monde, à toutes les auditrices et tous les auditeurs?
Je vais donner deux messages. Le premier, je me répète, mais c'est Myria veut vraiment promouvoir une politique migratoire basée sur la connaissance de faits. Ça, c'est important parce que je pense que ça va apaiser ce débat qui est souvent très polarisé. Et après, un appel au dialogue et au respect, en fait. C'est vraiment le cœur de notre mission chez Myria, c'est de parler avec tout le monde, à la fois avec les acteurs politiques, les responsables politiques, avec les acteurs institutionnels, avec les ONG, avec les centres de recherche. Et c'est vraiment une force, et on le voit quand on se parle, quand on se met autour de la table, on peut trouver des solutions. Alors évidemment, c'est des solutions souvent opérationnelles et il reste qu'il y a une série de choses, une série de mesures structurelles qui sont à dénoncer, que nous dénonçons avec Myria lorsqu'elle porte atteinte aux droits fondamentaux. Mais lorsqu'il y a du dialogue et du respect, je pense que la politique est meilleure.
Voilà, la politique est meilleure. C'est la conclusion de François Roland. Je rappelle que vous êtes conseiller en droits fondamentaux au Centre fédéral Migration. Myria, merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour évoquer un sujet dont on a parlé brièvement, les visites domiciliaires, le sujet de la chronique de Jean-Marc Meyer dans quelques instants, qui est avocat pénaliste et ancien procureur du roi. Tout de suite.
Le carrefour de l'info sur Arabelle.
Et c'est Jean-Marc Meyer qui vient de nous rejoindre, avocat pénaliste, ancien procureur du roi, pour sa chronique sous le titre aujourd'hui « Visite domiciliaire quand l'exception devient la règle ». Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Tariq.
Alors vous suivez ce dossier de très très près, celui des visites domiciliaires, et avant d'entrer dans la polémique, dans le détail du détail, qu'est-ce que ce texte autorise finalement concrètement ?
Alors d'abord je pense qu'il faut appeler un chat un chat. On parle de visite domiciliaire et en réalité, dans la perception, c'est bien une perquisition. C'est-à-dire que ce projet, il permet à l'Office des étrangers de saisir un juge d'instruction, on y reviendra, afin que la police soit autorisée à pénétrer dans un logement qui est celui d'une personne en séjour illégal ou qui est celui d'une personne qui héberge des personnes en séjour illégal pour procéder à une arrestation administrative et à un éloignement du territoire. Et donc c'est bien pénétrer dans un domicile pour une décision, pour exécuter une décision administrative. Et ce projet, il a été adopté en troisième lecture très récemment.
On dit que le gouvernement répond qu'il a verrouillé tout ce dispositif. Des conditions cumulatives, un juge indépendant, des balises strictes, et ce n'est pas suffisant ?
Oui, alors effectivement, on parle de balises strictes, mais il faut revenir aux premières critiques, parce que c'est un texte qui fait l'objet de nombreuses critiques et depuis de nombreuses années, puis c'est un projet qui est depuis de nombreuses années sur la table. Déjà en 2020, le Conseil d'État, qui a été saisi d'un texte qui était quasiment similaire au texte actuel, il avait rendu un avis cinglant. Il y avait des problèmes par rapport à la Constitution sur l'inviolabilité du domicile, il y avait des problèmes par rapport à la vie privée, il y avait des problèmes par rapport à la Convention européenne des droits de l'homme, et le Conseil d'État concluait à l'époque qu'il fallait que le texte soit fondamentalement revu, notamment pour garantir un recours effectif des personnes concernées. C'est vraiment là qu'on constate que le Conseil d'État n'a pas été entendu.
Alors, mais justement, le passage devant un juge d'instruction, ce n'est pas le contrôle indépendant que réclamait pourtant le Conseil d'État.
Alors, je ne vais pas dire qu'un juge d'instruction n'est pas indépendant, mais par contre, ce qui est prévu dans le texte, c'est un contrôle uniquement sur la légalité de la mesure et pas sur son opportunité, pas sur la proportionnalité de la mesure. Et donc, quelqu'un qui serait arrêté à la suite d'une perquisition pourra contester sa détention. Soit dit en passant, c'est très très rare d'obtenir des libérations de personnes qui sont arrêtées sur cette base-là. Mais il n'y aura pas de moyen de contester la visite domiciliaire en elle-même. La décision, elle n'est pas susceptible d'appel. Et donc, on vous a perquisitionné. Et on n'a pas de recours contre cette perquisition. Et c'est vraiment cette lacune-là que le Conseil d'État avait pointée en 2020, qu'il a repointée dans son avis en 2025, en août 2025. Et donc récemment, début mai, le Conseil d'État a simplement renvoyé le gouvernement à ses amendements en disant qu'il avait déjà été saisi une fois et que donc il n'avait plus à revoir le texte. Il ne pouvait pas le revoir une deuxième fois, mais les critiques restent.
Alors le gouvernement lui insiste, la notion de danger pour l'ordre public est restrictive. Une simple infraction ne suffit pas, le séjour irrégulier non plus.
Oui, ça fait partie des balises strictes qui nous sont expliquées. Mais en fait, c'est exactement l'inverse. La notion de danger pour l'ordre public, elle n'est pas du tout restrictive parce qu'elle n'est pas définie. Et donc, c'est effectivement l'inverse. Quand une notion n'est pas définie, elle est par définition très large. Si on veut qu'elle soit bien restrictive, il faut qu'elle soit bien définie. Et on peut, ça existe dans le droit, des notions qui ne sont pas définies, où justement, on laisse l'appréciation au juge pour définir si oui ou non une situation rentre dans le concept. Mais quand on rentre dans une mesure attentatoire aux libertés fondamentales, la protection du domicile, c'est dans notre Constitution. Et donc, quand on rentre dans des mesures attentatoires à la liberté, là, il faut peut-être quelque chose d'un peu plus restrictif. Et donc, en fait, on est en train de glisser petit à petit, parce qu'il n'y a pas énormément de cas non plus, mais on glisse petit à petit vers pour faire accepter quelque chose qui devrait être l'exception comme étant quelque chose de banal, c'est-à-dire on peut demander à la police de rentrer chez vous pour arrêter quelqu'un.
Alors Jean-Marc Meyer, on peut vous répondre, les mineurs sont exclus, les autres ne seront pas poursuivis et la proportionnalité finalement assurée.
Oui, alors le fait qu'un mineur ne puisse pas être visé, ben, ça ne change rien au fait que, ben, de un, les critiques dont on vient de parler, elles seront toujours présentes et que s'il y a un mineur qui est présent dans cette maison, il subira, et croyez-moi, subir, j'utilise à dessein le mot subir, une perquisition, ce n'est pas quelque chose d'évident certainement pour un mineur, que l'autre ne soit pas poursuivi, donc hein, les personnes qui ne commettent en réalité pas d'infraction, mais qui, par humanité ou par conviction, décident d'héberger chez eux des gens en séjour illégal, qui ne soient pas poursuivis, oserais-je dire que c'est pratiquement normal, et que donc on ne va pas s'en targuer. Donc voilà, ça ne change pas grand-chose, je pense, aux oppositions qu'il y a à ce projet.
Alors, il y a aussi que notre aspect, le gouvernement qui avance, que ce type de dispositif existe déjà ailleurs en Europe.
Oui, effectivement, c'est une réalité, on ne doit pas la nier, mais ce qu'on doit vérifier, nous, en Belgique, c'est la conformité de ce qui est proposé par rapport à nos textes, à nous, en Belgique, et là, manifestement, le Conseil d'État avait et a toujours des sérieux questionnements.
Alors, en termes de curseur, sur le fond, où est la ligne rouge pour vous, Jean-Marc Meyer ?
Je pense que c'est la proportionnalité. On est vraiment dans quelque chose. On a connu avec le Covid, on a accepté beaucoup de mesures attentatoires aux libertés dans un espèce d'état de nécessité. Et ça a libéré, je pense, toute une série de projets qui sont de plus en plus attentatoires aux libertés. Et donc, on déploie un instrument de type perquisition. C'est quand même une intrusion grave dans nos libertés, mais pas pour un crime. Simplement pour des personnes qui sont dans une situation administrative qui n'est pas légale. Je dirais quand même, hein, quand on va perquisitionner chez un malfrat qui est à la tête d'une organisation criminelle, il y a une ordonnance motivée d'un juge d'instruction sur le fond et sur la proportionnalité. Ici, c'est pas ce qu'on aura. Et en plus, le malfrat en question, il pourra contester la légalité de cette ordonnance de perquisition dans le cas des poursuites éventuelles. Et si jamais elle est illégale, tout ce qui aura été retrouvé dans le cadre de la perquisition pourra à tout le moins être contesté. Alors, ici, on change la nature de cet acte.
Alors, un mot ou plusieurs mots pour conclure.
Oui. Je pense que, on en a déjà parlé souvent des mesures fortes que ce gouvernement veut prendre, mais je pense que la démocratie ou notre état de droit, mais qui est un terme un peu galvaudé, il ne se mesure pas à la sévérité, à la fermeté qu'on a par rapport aux plus faibles, mais ce qui est compliqué, c'est de maintenir les garanties quand ce serait plus facile de ne pas les maintenir. Et c'est vraiment ça qui est en discussion aujourd'hui. C'est beaucoup plus facile d'autoriser les visites domiciliaires et de dire on expulse tout le monde. Mais on transige avec des principes qui devraient être des principes avec lesquels on ne pourrait pas transiger. Et en fait, c'est ça, je pense, le fond du problème.
Visite domiciliaire quand l'exception devient la règle. La chronique signée Jean-Marc Meyer, avocat pénaliste et ancien procureur du roi. Merci Jean-Marc.
Avec plaisir.
On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de votre Carrefour de l'Info. À tout de suite.